VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé ce jeudi à Gitega, dans le centre du pays, qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020. Et ce, dans un discours prononcé après avoir promulgué la nouvelle constitution adoptée le 17 mai par référendum, qui lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Le chef de l'État a rappelé avoir promis lors de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue de son troisième mandat. En tant que guide du parti au pouvoir CNDD-FDD, je voudrais annoncer que je ne reviendrai pas sur ma parole. Notre mandat s'achève en 2020, a souligné le président Nkurunziza. Pour les opposants burundais, l'adoption de la nouvelle constitution enterre définitivement l'accord de paix d'Arusha signé en 2000 qui avait instauré un partage du pouvoir politique et ethnique. La nouvelle charte fondamentale, contestée en vain devant la Cour constitutionnelle par une coalition d'opposition, laisse la main libre au président de la République qui monopolise désormais tous les leviers du pouvoir exécutif. Afrique centrale, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'entretient ce jeudi avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville et son homologue tchadien Idriss Déby Itno à N'Djamena. M. Le Drian est en tournée dans plusieurs pays d'Afrique pour discuter de la situation de la République centrafricaine. Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno sont tous deux médiateurs dans le conflit en RCA, où la France est intervenue en 2013 pour stopper les affrontements intercommunautaires. Depuis, Paris a passé le relais à la communauté internationale et mis fin en décembre 2016 à son opération militaire Sangaris. Mais de récentes violences en Centrafrique font craindre un nouvel embrasement. La tournée africaine de Jean-Yves Le Drian se termine à Addis Abeba demain vendredi avec un entretien avec Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. La Cour internationale de justice a renvoyé hier la France et la Guinée équatoriale dos à dos en rendant un arrêt mitigé sur les poursuites françaises contre le vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang. Le point avec Raïssa Girondin.
La Cour n'a pas compétence sur la base de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. C'est ce qu'a déclaré le juge Abdoulkawi Hamed Youssouf, président de la Cour internationale de justice. Paris a toujours contesté la compétence de ce tribunal dans cette affaire. Par contre, la Guinée équatoriale, qui a saisi la Cour, dénonçait une violation de l'immunité de Théodora Obiang, que la justice française a condamnée dans le procès dit des biens mal acquis. Malabo affirmait que les autorités françaises n'avaient pas non plus le droit de perquisitionner une propriété de 6 étages de la famille Obiang à Paris. Cette propriété de luxe dispose d'un cinéma et de robinets en or, selon l'ambassade équato-guinéenne. La Cour s'est dite compétente pour se prononcer sur le statut de cet immeuble situé au 42 avenue Foch, a poursuivi le juge. Elle devrait se pencher sur l'affaire lors de prochaines audiences.
Soudan du Sud, la crise humanitaire dans ce pays en guerre est en train de s'aggraver dans des proportions alarmantes, a averti ce jeudi à Nairobi Jan Egeland, secrétaire général de l'ONG humanitaire Norwegian Refugee Council, très active sur le terrain. Concernant cette guerre civile qui fait rage depuis décembre 2013, des efforts seraient en cours pour organiser une rencontre entre le leader rebelle sud-soudanais Riek Machar et le président Salva Kiir. Claire Morin-Gibault nous en dit plus.
Des pourparlers vont-ils avoir lieu entre les grands rivaux Riek Machar et Salva Kiir au Soudan du Sud? Ateni Wek Ateni, le porte-parole du président Kiir, a déclaré qu'une rencontre entre les deux hommes devrait se tenir fin juin. Mais le SPLMIO, le mouvement de Riek Machar, a démenti ces propos, qualifiés de désinformation, tout en assurant que leur chef, Riek Machar, serait ravi de rencontrer le président Kiir au nom de la paix. Le président soudanais Omar el-Béchir avait offert mardi ses bons offices en proposant d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. Fin mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé les factions belligérantes de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 4 ans et demi. Cette guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et près de 4 millions de déplacés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, la région de Mopti, dans le centre du pays, vit aujourd'hui dans une insécurité presque totale. Pour trouver des solutions à cette situation, l'équipe chargée d'aider à la réconciliation veut se doter d'un plan d'action de 2 ans, nous dit notre correspondant sur place, Mamadou Bokoum.
Cette rencontre entre les acteurs de la réconciliation nationale est un cadre d'échange et de propositions. Un cadre qui permet d'élaborer un document pour mieux maîtriser les actions futures. Ce plan d'action permet de bien préparer les acteurs de la réconciliation afin qu'ils puissent faire face aux défis qui les attendent, comme nous l'explique ici le président de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation nationale, Ali Kampo.
L'élaboration de ce plan répond à des objectifs. D'abord, une performance des équipes régionales pour maîtriser l'outil dans le domaine de la réconciliation et la cohésion sociale. Les conflits au niveau du Delta et au niveau de la zone exondée font que Mopti aujourd'hui est devenu l'épicentre de la violence au Mali. Donc il faut que les mécanismes de réconciliation, de recherche de paix soient un outil mieux maîtrisé par les acteurs que nous sommes. Le deuxième aspect extrêmement important, c'est de faire des projections sur 2 ans pour ne pas aborder le programme sur un pilotage à vue. Parce que plus vous avez un calendrier bien élaboré, une vision mieux étayée, ceci vous permettait d'avoir des résultats stratégiques importants pour que la paix et la tranquillité soient dans la région de Mopti.
La région de Mopti, il faut le rappeler, est une zone cosmopolite riche de sa diversité ethnique, culturelle et linguistique, appréciée de tous. Mais aujourd'hui, elle vit une autre réalité peu reluisante. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
En Éthiopie, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed poursuit ses réformes. Après avoir levé l'état d'urgence dans le pays, il a annoncé qu'Addis Abeba accepte la mise en œuvre intégrale des conclusions d'une commission internationale indépendante sur son différend frontalier avec l'Érythrée. Timothée Donangmaï a interviewé sur la situation en Éthiopie l'analyste Roland Marshall du Centre de recherche internationale de Paris.
D'un côté, il y a des marques réelles de changement, la libération de leaders politiques, la libération aussi de très nombreux prisonniers qui ont été un peu arrêtés sans trop de discernement par l'État. Et donc ça laisse évidemment penser que les choses vont aller mieux. Et puis, de l'autre côté, on se rend compte que dans la vie quotidienne, les choses n'évoluent pas aussi rapidement qu'on devrait et qu'on pourrait l'espérer. Et qu'en particulier, les contrôles policiers et, les réflexes de pouvoir continuent encore à être omniprésents et font qu'on perçoit un changement et en même temps on perçoit la fragilité qui est évidemment très grande de ce changement.
Qu'en est-il de la décision des dirigeants éthiopiens de mettre un terme à leurs différents frontaliers avec l'Érythrée?
Le diable est dans les détails. On connaît l'histoire, hein, accord d'Alger décembre 2000, où Éthiopie et Érythrée promettent de s'en remettre à une commission internationale de juristes pour déterminer la frontière. Et puis 2002, une décision qui prend complètement à contre-pied l'Éthiopie, puisque ce qui avait été un peu présenté comme la source du conflit, la ville de Badme, est placé par la commission internationale à l'intérieur de l'Érythrée. Et donc à partir de ce moment-là, la mise en œuvre de la démarcation de la frontière va être bloquée. Le régime éthiopien, sous Meles Zenawi, puis son successeur, va être bloqué essentiellement en demandant des discussions préalables à la délimitation des frontières. Et évidemment, l'Érythrée qui pouvait enfin prendre une revanche symbolique sur sa défaite s'y est refusée et bloquant tout le processus. Aujourd'hui, il y a un espoir et en même temps cet espoir, il faut, et c'est là que je me répète, en souligner la fragilité. D'une part, l'Éthiopie dit qu'elle est prête à une application intégrale de l'accord d'Alger, donc la décision de la Cour, mais en même temps, ça veut dire que l'Éthiopie va devoir rapatrier un certain nombre de troupes de ce qui devrait être par application de cet accord considéré comme territoire érythréen. Est-ce que ça va être fait? Très étrangement, la décision de la direction de la coalition au pouvoir n'est pas rentrée dans ce détail-là. Du côté d'Asmara, évidemment, c'est d'une certaine façon un cadeau empoisonné. D'un côté, évidemment, Asmara peut crier victoire. De l'autre, le fait de ne plus disposer de cet argument symbolique pour justifier la répression interne, la mobilisation et l'encasernement des jeunes signifie que le régime érythréen va devoir changer de politique vis-à-vis de sa propre population.
Roland Marchal du Centre de recherche internationale de Paris. Merci de votre attention.